Paris est peut-être une ville qui a des milliers et des milliers de possédés, d'envoûtés, à tel point qu'il y a un exorciseur à l'évêché à Paris, un prêtre qui ne fait que désenvoûter, exorciser les cas qui lui sont soumis. Vous ne le ferez jamais parler, celui-là.
Seigneur est un sorcier. Il ne vit que de ce monde fantastique.
Ici, on n'entre plus. C'est le passé.
Il vous emmène dans un monde totalement étrange, très différent du monde où nous sommes.
Il faut pénétrer dans un monde occulte dont il a parfaitement le secret.
Conteur de récits fantastiques, folkloriste, écrivain, sorcier ou monsieur tout le monde, Claude Seignol le sait-il lui-même. Ses nombreuses explorations de la mythologie et des superstitions paysannes l'ont conduit pendant 30 ans des sorciers aux vieux conteurs et des campagnes maudites au vieux quartier des Halles. 30 livres témoignent d'une démarche à la fois ethnologique et romanesque. Son ami Laurence Dorel l'a fait traduire et éditer en langue anglaise.
Dans un certain village, on me dit « Ah ben vous savez monsieur, depuis quelque temps il y a un sorcier ici, on vient le voir de plus en plus loin ». Et on se garderait bien d'aller lui demander de guérir de quelques maladies parce qu'il nous en donnerait plutôt qu'il nous les enlèverait. Je vais voir ce sorcier, je lui dis moi-même que je suis un peu sorcier de la vie, et il me dit, mais vous avez les livres? Alors je lui dis, oui, bien sûr que j'ai les livres, je les ai tous, le petit Albert, la poule noire, bon, enfin bref. Il me dit, mais moi j'en ai un, et je ne le montre à personne. J'insiste, mais j'insiste tellement qu'on fait un échange, je te donne un de mes secrets formidables, et puis tu me montres ton livre. Et il me fait rentrer dans sa chambre paysanne. Vous voyez le lit avec la couette. Il soulève le matelas et il sort de dessous un livre à couverture terreuse. Il avait cousu un fil de couleurs différentes aux pages ou même aux lignes qui comportaient des histoires maléfiques. Et il l'ouvre. Mais avant qu'il l'ouvre, moi j'étais stupéfait comme ça. Car ce fameux livre, c'était la première édition de mon livre.
Seignol, c'est le marché aux puces. C'est-à-dire qu'on va le voir, on ne sait pas très bien ce qu'on attend, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche, mais on sait très bien qu'il va se passer quelque chose.
Il a un pouvoir extraordinaire sur vous par son langage. Il a un tel débit que c'est une sorte d'enlisement et une sorte de glu qui vous coupe partout. On est complètement paralysé.
D'abord, je l'ai connu comme folkloriste ethnologue, vous savez. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il était aussi un loup-garou. Je l'ai trouvé face à face à un type vraiment très étrange qui était... Exactement dans cette tradition ésotérique du diable.
Mademoiselle, croyez-vous au diable?
Est-ce que vous croyez que Seignol est quelqu'un de sérieux?
C'est ça la chose la plus dangereuse pour un diaboliste, d'être vraiment sincère et sérieux.
Eh bien, pour devenir un conteur fantastique, il faut avoir vu beaucoup de choses. Et déjà, commencer par avoir eu deux grands-mères conteuses comme moi. J'ajouterai une enfance périgourdine, très tracassée par le diable. Cette grand-mère m'amène un jour dans une forêt aux environs de Périgueux. Et il me dit, tu vois, cet arbre a été marqué par le diable. Et elle m'explique que quelqu'un qui n'avait pas cru au diable avait été poursuivi par ce diable qui l'avait giflé contre cet arbre. Et la marque en était restée. Mais de ce jour, le diable a pris dans mon esprit d'enfant une place aussi importante que Dieu. Du reste, sans le diable, Dieu ne serait pas grand-chose.
Le côté folklorique, c'est très strictement scolastique. Et le côté aventurier, loup-garou, écrivain, c'est complètement farfelu.
Qui étaient vos parents et d'où venaient-ils?
Des gens très simples. Du côté de ma mère, c'était les doux, c'est-à-dire les gens du Périgord, des gens paisibles, poètes, des rêveurs. Et du côté de mon père, des Limousins, des gens âpres. Ils étaient tous partis de rien Et ils ont tous fini dans des fonctions ou administrativement élevées, ou alors, au point de vue argent, très riches. L'histoire de mon père est une histoire prodigieuse, puisque parti pour balayer chez Félix Petain, il a trouvé le moyen de devenir très riche, et à son tour, il a acheté deux immeubles et un très grand journal de Paris et mon locataire. Ces deux immeubles étaient construits juste à l'emplacement, sont construits juste à l'emplacement de l'ancienne cour des miracles. Je descendais dans les sous-sols et là, je m'installais dans des petits recoins, mais jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Et vers lorsque le dernier métro avait cessé, les premiers rats commençaient à faire leur sabbat. Et là, assis, en transe, ou même avec une lumière, j'écrivais. J'étais le médium de la mémoire des lieux, car vous savez comme moi que les murs, certains murs, enregistrent les faits qui se sont produits devant eux. Moi, ignorant Resti de la Bretonne et Gérard de Nerval, dans la même rue, j'ai trouvé une histoire semblable à eux, qui est ma petite Delphine. Et lorsque ça a été terminé, on m'a dit « Oh, influence nervalienne, influence restivienne », mais pas du tout, influence du lieu, tout simplement. Vous êtes du quartier, madame ?
Oui, monsieur, j'habite là.
Vous habitez là, dans cette vieille maison. Vous devez savoir où habite monsieur Restif de la Bretonne. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose ?
Ça doit être au 10, parce qu'ici, moi j'ai été concierge 3 ans, dans ces immeubles, le 12, le 13 et le 14, je n'ai pas connaissance de ça.
Merci, madame. Au revoir, madame. Monsieur, monsieur, pardon monsieur, est-ce ici qu'habite monsieur Restif de la Bretonne?
Oui monsieur, c'est là, il vient de sortir.
Les halles seraient presque recouvertes d'un soleil noir à elle, qui irradie tellement que nous qui sommes au soleil extérieur, nous avons besoin pour bien établir une comparaison d'aller aux halles. Presque un peu pour nous damner. Pardon, monsieur, où se trouve l'entrée de l'enfer, s'il vous plaît? Merci, merci.
C'est un écrivain, mais c'est surtout un chercheur.
Il sauve toute une tradition des légendes, de contes, de superstitions qui autrement auraient complètement disparu.
Il fallait absolument que quelqu'un aille parcourir les provinces, comme il l'a fait depuis 30 ans. On peut peut-être lui reprocher de ne pas être allé lui-même plus loin, de ne pas avoir approfondi, de ne pas avoir tiré les conclusions qui s'imposaient de cette somme de travail.
Ces livres, moi, personnellement, j'aime beaucoup.
Est-ce que vous trouvez qu'ils sont bien écrits?
Ils ne sont pas écrits, ils sont parlés.
C'est un langage qui est occulte en lui-même. Toutes les notions de syntaxe sont bouleversées. C'est
un langage de paysan qui va avec l'atmosphère qui s'en dégage.
Je suis conteur par écrit, à défaut d'être conteur verbal comme étaient les grands-mères, elles, illettrées.
Mais vous n'êtes pas un écrivain, donc.
Le mot d'écrivain est rassurant. Il faut le garder.
C'est un secteur de la littérature assez constant, assez important, sans être peut-être le grand littérateur de tous les temps. C'est parfaitement valable.
Je suis fâché avec la langue française. J'étais fâché avec l'orthographe, à tel point que, après avoir redoublé je ne sais pas combien de fois une sixième, on m'a mis à la porte d'un lycée des environs de Paris. Mon père me récupère en me disant « c'est très bien, tu vas faire des paquets ». Et je me suis mis à faire des paquets. Mais à force de faire des paquets, je me suis dit « c'est quand même idiot, moi j'ai toujours aimé les livres ». Et il a fallu que je me réinvente une écriture à moi, pour raconter toutes ces histoires qui me tournaient dans la tête. Alors je me suis vraiment inventé comme si boitant, je m'étais confectionné moi-même une jambe orthopédique. Et c'est mon écriture. Et aujourd'hui, on fait en France, à l'étranger, chaque année, des thèses, des diplômes, des dictées dans certaines écoles, sur mes textes, qui sont, paraît-il, très difficiles et qui, à mon tour, me vengent.
Claude Seignolle évolue avec aisance au milieu des prémonitions, des coïncidences tragiques, où des menaces occultes.
J'ai fait un beau mariage et pour faire un beau mariage dans une église du 16e, il fallait avoir un bel habit. On m'a prêté celui d'un ami de la famille. Un habit très strict, avec un col dur qui pénétrait ici. Un an après, les déportés de captivité rentrent, ce qu'il en reste. Et j'apprends que le chef de leur réseau, de qui j'avais porté l'habit, avait été ultimement torturé dans une cave de la Gestapo toute la journée de mon mariage le 12 avril 1944. On l'a décapité. Toute la journée, j'ai souffert horriblement. Le soir, j'enlève ce col, un œdème. Pendant 2 jours, une trace d'abord rouge et ensuite blanche autour du cou. Vous me direz que c'est une coïncidence. Vous savez, il faut bien réfléchir à toutes ces coïncidences. La seconde, elles sont significatives finalement. C'est Jung qui l'a dit, ce sont des coïncidences significatives. Il y en a une autre qui est beaucoup plus intéressante. On le sait maintenant, Martine Carole est morte en lisant un de mes livres qui s'appelle « La malvenue ». Elle est morte en lisant la page 167. Or, la page 167, je l'ai écrite ici, dans mon bureau, dans cet appartement, dans mon bureau du fond. Voici quelque temps, l'ancien propriétaire d'ici, je suis ici depuis une vingtaine d'années seulement, mais l'ancien propriétaire revient, me dit bonjour. En fait, cet homme avait besoin, par une nostalgie, de revoir l'endroit où il avait vécu. Et alors là, il me dit à ce moment-là, mais... Ah, vous savez, je vous en parle avec beaucoup d'émotion, car vous savez le drame qui est arrivé à ma pauvre petite belle-sœur. Ah, mais votre petite belle-sœur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et vous savez qu'elle est morte, elle est morte du cœur. Jusqu'à 14 ans, elle venait ici, et elle avait, justement, je vous parle de votre bureau, elle avait son lit à la place où vous aviez le bureau où vous écriviez autrefois. Et j'apprends que cette petite belle-sœur, c'était Martine Carole. Alors pour moi, la boucle était bouclée, le cercle était fermé. Le passage qui a assisté à sa mort, ou qui a provoqué sa mort, selon, n'est-ce pas, a été écrit à un endroit où elle avait été heureuse. Tout autour de nous est lié. Nous sommes liés à notre destin. Et le comble, c'est que le destin lui-même ignore qu'il a son propre destin. Ça nous rassure, mais c'est bien inquiétant.
Craignez pas d'attirer sur vous les forces du mal.
Je les attire. Je les attire, mais il est bien connu de tous ceux qui, comme nous, rôdent autour de ces forces maléfiques. Le seul moyen de s'en défendre, c'est de ne jamais s'en moquer. Et surtout, de ne jamais trahir.
Est-ce que vous avez un pouvoir?
J'ai le pouvoir qu'on me prête. Mais je puis dire que lorsque je rédige des abraxas, c'est-à-dire que je prends une enveloppe de cartes visite, que je mets à l'intérieur différentes choses qui me paraissent compatibles. Un pétale, un brin de cheveux, une pensée, et que je le referme. Et que je mets extérieurement Abraxas, comme le font les vieux sorciers du Limousin, Abraxas, au profit de un tel, un résultat se produit. Je le fais rarement. Je l'ai fait 20 fois dans ma vie et j'ai eu 20 résultats.
Et vous n'avez jamais été tenté d'employer ce pouvoir en mal?
Jamais. C'est ma force.
Mais vous auriez aimé, vous, vous installer et être sorcier?
Non, pas du tout. Je pense que les sorciers de campagne sont avant tout des gens qui veulent tâter à une puissance, ils veulent toucher à une puissance. On commence d'abord, comment on devient sorcier? Eh bien, vous êtes un individu généralement associable ou asocial. On dit qu'ils sont marqués du B, ce sont les boiteux, les bossus ou les bègles. Des gens qui déjà font parler d'eux ou que l'on remarque. Eh bien, ces hommes-là sont mis au banc de la société. Et très rapidement, ils se font craindre. Et croyez-moi, c'est un pouvoir de se faire craindre. Et ces gens-là qui sont en besoin de puissance, ne font qu'accroître par les mots, par tout ce qu'ils promettent lorsqu'ils sont appelés quelque part, cette puissance en puissance.
Vous avez connu des possédés?
Oui. Mais c'est triste à dire, ça relève un peu le romantisme. Elles étaient toutes des sujets traitables dans des services psychiatriques. Une fois, j'ai été envoûté, et pendant 6 mois, j'ai réellement dépéri. C'est le directeur qui s'est suicidé maintenant, de l'ancienne chaîne Paris-Romainville, qui, ayant entendu parler de mon cas, m'a demandé d'en faire une confession publique. J'ai donc fait une confession qui a duré 2 fois 40 minutes, dans laquelle j'ai raconté comment la chose m'était arrivée, mais d'avoir partagé, avec ce qui doit correspondre à peu près 300 000 auditeurs, d'avoir partagé cette situation, j'en ai été délivré. Vous voyez combien c'était psychosomatique. Et j'ai repris non seulement mes 10 et 12, mais 15 kilos de bien-être par la suite. Ça, c'est une expérience directe. Je reçois des lettres quelquefois terribles. Je suis envoûté, je suis tenu sous le poids du diable, je n'ai plus qu'un an à vivre. Monsieur, vous qui avez accès là où il faut, aidez-moi, j'ai 20 ans, je ne veux pas mourir.
Est-ce que vous croyez que le fantastique peut exister dans les villes modernes que nous avons maintenant?
Oui, il est dans l'individu.
Est-ce que vous pensez à la mort?
Oui, il m'arrive d'y penser. Et il m'arrive même de la souhaiter très étrange.
Est-ce que vous croyez en Dieu?
Oui, mais pas celui qui a la barbe.
C'est-à-dire auquel?
Je crois en Dieu en tant que force indéniable, que centre du monde, plexus solaire cosmique.
Est-ce que vous avez peur de ne pas être pris au sérieux?
Pas pour moi, mais pour mes histoires. Je les défends.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire traiter de fumiste?
Bon, comme tout le monde. De fumiste à quel point de vue? Je n'avance aucune théorie. Je ne suis pas un mage et je ne crois pas dire non plus que je sois quelqu'un qui peut décider du sort de l'humanité. Donc, je n'avance rien.
Est-ce que ce n'est pas une sorte d'exorcisme pour vous d'écrire ces livres?
Absolument. Chacune de mes histoires, ou presque toutes mes histoires, sont un exorcisme. Tout ce que je fais, c'est pour communiquer mon inquiétude aux autres. Donc, pour m'en débarrasser. Alors, au bout d'une 50aine de romans, de contes, de nouvelles, eh bien, l'individu qui est devant vous n'a vraiment plus aucune névrose, n'a plus aucune angoisse. Il est parfaitement vide comme l'enfant qui vient de naître. Maintenant, je vais peut-être écrire des contes merveilleux pour mes petites filles. C'est ça qui est triste.